un journal présenté par Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Oumi, bonjour à tous. Donald Trump donne rendez-vous à Poutine en Alaska le 15 août prochain pour parler règlement de la guerre avec l'Ukraine. Accord qui impliquerait de céder des territoires Volodymyr Zelensky sur ses gardes. Aucune décision ne sera prise sans l'Ukraine, prévient-il. À quelques mois des élections législatives en Hongrie, Viktor Orban signe des chèques pour aider les fonctionnaires à se loger. Cadeaux, réduction d'impôts, subventions, opération séduction qui ne plaît pas à l'opposition. En France, l'incendie dans l'Aude est fixé. 16 000 hectares ont brûlé en 4 jours. Les pompiers restent mobilisés. On fait le point avec Arthur Fradin en direct dans ce journal. Il fera 40 degrés à Lyon cet après-midi, mais vous l'entendrez, cela n'empêche pas les touristes français de visiter les Trabous et Notre-Dame de Fourvière. Lyon gagne en popularité.
Et après des mois d'échanges par téléphone, ils se rencontreront donc la semaine prochaine.
Vendredi 15 août, Donald Trump et Vladimir Poutine seront en Alaska pour discuter d'une issue au conflit en Ukraine. Sommet très attendu par le président américain qui parle de concessions territoriales. Plus précisément, il pourrait y avoir un échange de territoires comme condition d'un accord de paix. Réaction immédiate de l'Ukraine qui n'est pas de cet avis. Bastien Bory.
Volodymyr Zelensky prévient « Toute négociation de paix sans le consentement de l'Ukraine ni le respect de ses frontières serait vaine. »
La réponse aux discussions sur l'avenir de notre intégrité territoriale se trouve dans la constitution ukrainienne. Nul n'y échappera. L'Ukraine n'offrira aucun pouce de son territoire à l'occupant. Nous ne récompenserons jamais la Russie pour ce qu'elle a commis.
Mais dans cette allocution prononcée ce matin, la fermeté de ton peine à masquer une marge de manœuvre de plus en plus réduite. Car en interne, la popularité du président Zelensky recule. 91% en 2022, 58% désormais. Sa survie politique dépendra donc de ses succès diplomatiques futurs, déjà limités par la perspective d'une rencontre bilatérale Trump-Poutine. Et Moscou le sait, l'hypothèse d'un accord de paix consacrant la souveraineté russe sur les oblasts de Donetsk et Luhansk, évoquée aujourd'hui dans la presse américaine, nécessiterait en effet une modification constitutionnelle en Ukraine, une procédure à haut risque pour Volodymyr Zelensky.
L'Ukraine qui évacue en urgence des habitants depuis hier face aux avancées de l'armée russe, une vingtaine de villages dans l'est de l'Ukraine sont vidés de leurs habitants. Les troupes russes gagnent du terrain en juillet, notamment elle a accéléré ses avancées. Position de faiseur de paix, Donald Trump maintient cette image avec cet autre accord signé hier entre le président azerbaïdjanais et le premier ministre arménien. Tous deux reçus à la Maison Blanche, ils se sont engagés à mettre fin au combat dans la région du Haut-Karabakh, foyer de conflit depuis plusieurs décennies. L'accord appelé « Voix Trump pour la paix et la prospérité internationale » prévoit la création d'une zone de transit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les États-Unis disposeront dans cette région riche en hydrocarbures de droits de développement. La France, le Royaume-Uni ainsi que l'Iran et la Turquie saluent ce pacte. L'ONU tient une réunion d'urgence demain, dimanche, après l'annonce du plan israélien de prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande ville du territoire gazaoui située dans le nord de l'enclave palestinienne. Opération militaire condamnée par l'Union européenne et une vingtaine de pays arabes et musulmans. La Chine a également réagi, exprimant sa grave inquiétude et affirmant que Gaza appartient au peuple palestinien. Des aides et des avantages offerts aux Hongrois à l'approche des élections législatives. C'est la stratégie de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui se retrouve devancé dans les sondages. Le gouvernement nationaliste cible les fonctionnaires et les jeunes qui reçoivent des subventions pour se loger à Budapest. Florence Labruyère.
Encore un cadeau. Après avoir baissé les impôts pour les familles, Viktor Orban signe un chèque pour les fonctionnaires. Un chèque d'un million de forints, environ 2300 euros, qui sera versé chaque année aux policiers, aux enseignants ou aux soignants pour les aider à acheter un logement.
Cette somme pourra servir à rembourser un prêt immobilier ou à acheter un logement. Les fonctionnaires travaillent. Pour nous, c'est normal que l'État leur manifeste sa reconnaissance.
Et puis, les Hongrois qui souhaitent acheter leur premier appartement vont recevoir un gros coup de pouce. Ils pourront emprunter jusqu'à 125 000 euros, à un taux d'intérêt de 3%, soit 2 à 3 fois moins cher que le taux du marché. Une offre pareille, ça ne se refuse pas, selon Viktor Orban.
Moi, je dis à tous ceux qui désirent avoir leur propre appartement, c'est une énorme opportunité. Ça n'existe nulle part ailleurs en Europe.
À 8 mois des élections, Viktor Orban veut séduire les électeurs. Mais selon ses opposants, Orban creuse le déficit pour laisser les caisses vides au cas où il perdrait le prochain scrutin. Les subventions du gouvernement totalisent 5% du PIB de la Hongrie.
En Côte d'Ivoire, des manifestations aujourd'hui à Abidjan. À 3 mois de l'élection présidentielle, un appel des 2 partis d'opposition, dont plusieurs membres ont été arrêtés ces dernières semaines. Les manifestants refusent que le président sortant, Alassane Ouattara, 83 ans, brigue un 4e mandat. Elle ouvre ses portes quelques heures après l'incendie qui a atteint son entrée. La mosquée cathédrale de Cordoue a fait la une des télévisions espagnoles hier, après qu'un incendie s'est déclaré vers 21h. Le feu a été rapidement éteint par les pompiers. Seule la zone où l'incendie s'est déclaré reste inaccessible aujourd'hui. Pour l'instant, impossible de définir les causes de l'incendie. La direction de la mosquée et cathédrale pense que des batteries électriques stockées dans l'édifice ont pu déclencher l'incendie. Dans l'Aude, le feu est désormais fixé, informe la préfecture. Après 4 jours de combat face aux flammes et 16 000 hectares détruits, le retour à la normale est désormais progressif. L'ensemble des personnes évacuées dans les 16 communes touchées ont pu regagner leur domicile. Mais dans 9 communes, la préfecture passe la consigne de ne pas consommer l'eau potable afin que des analyses soient menées. Informations plus ou moins bien transmises et comprises pour le moment par les habitants. Comme vous l'avez constaté à des Corbières, Arthur Fradin.
Oui, dans la rue principale du village, tout le monde est en effet loin d'être au courant des recommandations passées par la préfecture.
Moi j'ai rebu l'eau, n'a pas d'odeur ni de couleur différente, non, elle est toujours potable.
Il faut pousser la porte de l'épicerie des Corbières un peu plus loin pour trouver quelqu'un d'un peu plus informé, Fabienne, venue visiter sa belle famille.
Je viens d'apprendre en allant chez au tabac qu'il ne fallait plus boire l'eau, c'est tout. Donc on a pris un pack d'eau en attendant ce soir qu'on nous dise si ça va ou pas.
Stéphanie, la gérante, a elle été avertie.
Ce matin, c'est le préfet de l'Aude. Vers 8h, ils nous ont envoyé un message comme quoi il ne faut pas boire de l'eau. Bon, on en a déjà fait du stock, maintenant on va voir. Ils sont en train d'analyser, ils vont nous dire ça peut-être dans la journée.
Et c'est d'ailleurs en écoutant la conversation que cette grand-mère décide elle aussi de refaire le plein.
Comme j'ai ma petite fille que je viens de la prendre, je vais prendre de l'eau.
Par précaution?
Ben, on va voir, oui. Bon, après, il faudrait savoir ce qu'ils cherchent dans l'eau. Peut-être les retardants, non ?
Des analyses sont donc en cours pour s'assurer de la potabilité dans ces 9 communes. Dans les autres communes voisines touchées par l'incendie, il est recommandé de laisser couler les robinets 2 minutes avant de consommer l'eau. Même consigne avant de se laver.
Merci Arthur Fradin en direct de l'Aude avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Et avec le retour de la canicule et du vent, 1000 pompiers restent encore mobilisés pour parer à toute reprise du feu. L'incendie ne sera pas éteint avant demain, dimanche, selon les pompiers de l'Aude. Des incendies qui seront sans surprise de plus en plus présents en France avec l'augmentation des températures. Aujourd'hui, 28 départements sont placés en vigilance orange à la canicule. Demain, ce seront 40 départements. Une vague de chaleur qui sera également exceptionnelle dans sa durée. Elle se maintient jusqu'au 15 août. Prudence, vigilance sur les chaleurs qui provoquent ces incendies. Nous explique Patrick Marrière, il est météorologue et prévisionniste.
Pour se permettre de lancer justement des vigilances sur les feux de forêt, il faut que, côté météo, on réunisse au moins 3 paramètres importants. Les températures, souvent supérieures à 30 degrés. Ensuite, il faut du vent qui souffle en rafale à plus de 30 km à l'heure. Ça sera le cas dans les régions du sud de la France et peut-être aussi sur les Charentes, la Gironde, les Landes, mais aussi dans la vallée du Rhône. Et puis le troisième élément, c'est la sécheresse qui s'est installée depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur certaines régions. Et cette sécheresse, surtout aussi de l'atmosphère, doit donner une humidité de l'air inférieure à 30%. Ça sera aussi le cas avec cette chaleur. On est engagé dans ce tunnel qui s'est amorcé en cette fin de semaine et qui va s'installer au moins pour 5 à 7 jours sur quasiment tout le territoire français, avec donc une canicule assez élevée, vigilance orange. Les pompiers, ils doivent être déjà bien fatigués par tout ce qui s'est passé dans les régions du sud-ouest. Et effectivement, la vigilance de tous les corps des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire va être accrue au cours des prochains jours. Car évidemment, après l'incendie important de l'Aude, il y a d'autres incendies moins importants, mais qui se sont déclenchés un peu partout en France. C'était le cas dans l'Hérault, le Gard, dans les Bouches-du-Rhône. C'était aussi le cas dans la Gironde. Peu de régions sont maintenant épargnées et à l'écart de ce risque de feu de forêt.
Patrick Marlière, interrogé par Marcia Nézic. Et puis ces fortes chaleurs obligent la SNCF à supprimer des trains sur les lignes intercités Paris-Limoges et Paris-Clermont. 3 allées par jour sont également supprimées jusqu'à lundi sur l'axe Bordeaux-Marseille. En Nouvelle-Calédonie, c'est un vote crucial aujourd'hui pour les suites de l'accord de Bougival, signé mi-juillet en région parisienne avec les non-indépendantistes et le gouvernement. Désormais, c'est au tour du principal mouvement indépendantiste, le Front de Libération nationale kanak socialiste, le FLNKS, de se prononcer. Il doit décider s'il rejette ou accepte cet accord. Pour l'instant, il n'y a pas trop de surprises, les indépendantistes ayant déjà désavoué publiquement l'accord. Au cœur de l'été, malgré la chaleur plus importante dans les lieux urbanisés, au milieu du goudron et des immeubles, le tourisme urbain progresse en France. À Lyon, commune autrefois boudée, reléguée au rang de ville-étape, elle attire maintenant les touristes et notamment les Français. Christophe Vincent les a rencontrés pour France Culture.
Au cœur du vieux Lyon, on parle beaucoup anglais ou espagnol, mais 75% des touristes sont français et ils restent 4 jours en moyenne. Fini l'époque de l'étape improvisée sur l'autoroute embouteillée des vacances.
C'est 2 nuits pour visiter le centre Lyon avec des amis, la famille. C'est une belle ville, ouais.
C'est une halte avant de retourner vers la Bretagne. On va être là 4 jours et on va visiter pendant 2-3 jours.
Une bonne semaine, c'est bien, mais bon, là, on a que 3-4 jours.
La ville est tellement belle que je comprends qu'on puisse rester 4 jours. D'autant que les alentours sont magnifiques, avec le lac d'Aix-les-Bains, le lac d'Annecy. C'est une région magnifique.
Séduit par une première visite, Fabien, un Suisse, a loué un studio pour une semaine.
On a décidé de venir sur 7 jours pour vraiment découvrir Lyon. Sans objectif, un peu traîné. Moi, j'aime beaucoup l'architecture, du coup Lyon est hyper varié dans l'architecture. Tous les traboules, c'est super drôle parce qu'avec un enfant, il y a tout ce côté un peu magique de découvrir, mais il y a vraiment de quoi faire. Les gens aussi, c'est pas Paris, c'est beaucoup plus sympa. On est venu à Lyon. Et on repart de Lyon, donc c'est vraiment vacances à Lyon.
Et malgré les 40 degrés prévus cet après-midi, tous comptent honorer les spécialités lyonnaises dont la légèreté n'est pas la qualité première.
Réunis en Suisse depuis 4 jours pour aboutir à un traité international contre la pollution plastique, 180 pays sont actuellement à Genève pour prendre des mesures face à cette production de plastique intensive qui va dépasser 1 milliard de tonnes en 2060. Alors que la rencontre doit se terminer dans 5 jours, pour l'instant aucun accord n'est en vue. Plusieurs pays bloquent les discussions comme les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite ou encore le Koweït. Pour alerter sur ce plastique, dans les mers notamment, il va commencer une course unique au monde, 180 km à la nage, 5 jours et 5 nuits pour tenter de relier la Corse au continent. Calvi-Monaco, le Suisse Noam Yaron, 28 ans, retente cette première mondiale avec un objectif environnemental, écoutez-le.
C'est l'une des mers les plus polluées du monde. Il y a près de 600 tonnes de plastique qui finissent dans la mer Méditerranée tous les jours, c'est beaucoup trop. Et cette traversée Calvi-Monaco a une symbolique assez forte puisqu'elle traverse la plus grande aire marine protégée de Méditerranée qui s'appelle le sanctuaire Pelagos, qui est gouverné par 3 pays, l'Italie, la France et Monaco. Et donc l'objectif, c'est de mettre en avant les enjeux de la Méditerranée, de cette zone qui en réalité n'est pas vraiment protégée, et donc d'inciter les gouvernements à investir pour améliorer cet état de protection et de viser 10% de protection stricte d'ici 2030, qui est l'objectif qui a été fixé aussi par la Commission européenne.
Noam Yaron arrive aujourd'hui, ce samedi, en Corse. Il partira dès que les conditions le permettront. Il part notamment en août, période de pleine lune, pour limiter la présence de plancton et de méduses sur son trajet. Il est mort hier à 97 ans, l'astronaute américain Jim Lowell, commandant de la mission Apollo 13. Il avait piloté en avril 70 cette mission spatiale américaine qui n'a jamais pu se poser sur la Lune. Une explosion était survenue en plein vol. Le temps de cet après-midi, 28 départements placés en vigilance orange, canicule. Côté température, comptez 21 pour les minimales, 38 pour les maximales. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Alix Forgeot à la technique, Noé Chaban. 12h45 sur France Culture.
Merci Marie-Aimée et à tout à l'heure pour le journal de 18h.
À tout à l'heure.